phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
La violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You fellow with your fellows get clean like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shoe. You live summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capular, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
On m'entend ou quoi?
Oui.
Ah, parce que moi je m'entends pas. Eh bien, il est 19h05 et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, Mélenchon, le pauvre Mélenchon, vous venez d'en entendre parler dans Mayday. Eh ben, on va en reparler aussi. Mélenchon est victime de la violence policière et de l'acharnement judiciaire. C'est terrible. Ouais, je continue les titres. En 2017-2018, on dirait que les chasseurs ont quand même buté plus de monde que les terroristes.
Ah bon?
Ouais. Après, toi, tu vas nous parler de quoi?
Putain, salaud, juste au moment où je pourrais me gorger de bière. Moi, je vais parler de quoi? Eh ben, je vais parler de passage par le Maroc. Et ça, c'est plutôt pour des mauvaises un peu sinistres. Et donc, plutôt dans la rubrique « Faut que ça sache ». Et de décisions de justice plutôt clémentes. Et plutôt, ça, ça fait partie des bonnes nouvelles. Donc,
Et puis après, on se fera un petit tour, on ira voir un peu ce qui se passe du côté des ventes d'armes que la France fait à l'Égypte à l'occasion du rapport d'Amnesty International qui est sorti hier sur le sujet. Il semble que la France préfère le business aux droits humains, y compris quand c'est complètement en dehors des textes internationaux.
Et après, on aura
Ah bah après, on aura déjà fini. Hein. Alors dis donc, vous avez vu Mélenchon, mais alors pas content, mais pas content du tout, quoi. Oh là là, on a osé aller perquisitionner chez lui, et puis même dans les locaux de son parti, un truc de dingue. Alors, depuis hier, la polémique, bien sûr, tourne surtout autour de ces vidéos où on voit que Mélenchon est très 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 vénère.
Alors très très, hein.
Très très. Alors, je sais pas dans quelle mesure vous qui m'écoutez, vous avez vu ces vidéos, vous en avez entendu parler, vous en avez vu des petits bouts, mais en tout cas, alors c'est sûr qu'il provoque les flics, que ça se bouscule par-ci par-là, qu'il se met à crier, qu'il est sacré, que sa personne est sacrée, bon, c'est sacré rigolo, ouais. Et puis, on le persécute, tout ça c'est politique. Bon, en gros, même argumentaire chez Mélenchon qu'on a pu entendre il y a un an et des brouettes chez Fillon, qu'on a pu entendre chez Le Pen, c'est vraiment le même tout ça, c'est parce que le pouvoir est contre moi. Et avec tout ça, un des buts de la communication de Mélenchon, comme ça en se mettant à brailler devant les micros, et en créant des polémiques, en bousculant, pas bousculant, est-ce qu'il a bousculé, est-ce qu'il a pas bousculé les flics, c'est quand même qu'on oublie, et du coup ça marche un peu, on oublie à peu près pourquoi est-ce qu'il y a eu ces perquisitions. Alors nous, on va commencer par le rappeler, hein, parce que mine de rien, ça a sa petite importance. Donc on dirait bien que la France insoumise a fait, comme tout le monde, qu'elle a tapé dans la caisse. La perquisition a été faite dans le cadre d'une enquête pour deux délits. D'une part, on dirait que la justice trouve qu'elle a des raisons de penser que les comptes de la campagne présidentielle pour la de 2017 pour la France insoumise ont été un petit peu traficotés. Et puis aussi, il y aurait une histoire d'emploi fictif au Parlement européen, finalement, même chose que pour le Front National.
On rappelle que quand on dit que les comptes de campagne ont été traficotés, ça veut en général dire, et là c'est le cas, c'est que ça veut dire qu'ils ont été soit diminués, soit, bref, on ne sait pas exactement les tenants, les aboutissants, moi j'y comprends rien, mais en général c'est pour se faire rembourser plus, du coup c'est pour piquer plus de pognon à des trucs, enfin voilà, plus de pognon à l'État.
C'est ça, pour mettre, alors en l'occurrence dans les caisses du parti, parce qu'effectivement du côté de la France Insoumise, par rapport à Fillon par exemple, on imagine qu'il y a plutôt des chances que ça soit allé dans les caisses du parti plutôt que dans les poches directement des chefs du parti. Enfin bon, on n'en sait rien, toujours est-il qu'il y a toujours de l'argent qui a été pris en plus que ce qui aurait été dû normalement. Bah, toujours est-il qu'il y a des soupçons que, hein, attention, bien sûr,
oula,
respectons la présomption d'innocence. Et donc Mélenchon, il crie fort, il crie très 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 fort, il fait n'importe quoi, et ça marche, et donc on oublie ces deux accusations. Mais c'est quand même bien ça, c'est un parti comme les autres, il cherche à prendre le pouvoir et puis il est capable de profiter des petits avantages qu'il trouve sur le chemin du pouvoir. Alors, au micro de France Inter, ce matin, Alexis Corbière, donc, qui est aussi un député de la France Insoumise, est longuement revenu sur ses perquisitions. Il a, entre autres, dit que son mouvement est le seul parti politique dont les domiciles de dirigeants ont été perquisitionnés. Il a fait un parallèle avec le MoDem et le Rassemblement National, alors que
Rassemblement National, c'est le Front National.
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, bon, en réalité, c'est juste faux, mais c'est la France Insoumise, hein, ils mentent comme tout le monde. Le MoDem, par exemple, a été perquisitionné. Le siège du MoDem a été perquisitionné en octobre 2017. C'était, vous savez, une histoire avec Bayrou là.
Le pauvre, c'était l'histoire qui lui a fait qu'il a été ministre seulement 3 mois.
C'est ça, même pas, je crois. C'est ça. Bon, Le Pen. Alors, Le Pen, bah, elle, finalement, c'est au château de Montretout, qui est la demeure historique de la famille Le Pen à Saint-Cloud. Bah, il y a aussi eu perquisition en 2016, dans le cadre de l'enquête qui a été faite pour les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Même chef d'inculpation que pour la France Insoumise. Donc en fait, non, le pauvre Mélenchon, il n'est pas plus victime que n'importe qui d'autre qui fait les mêmes trucs. Fillon, il a aussi été perquisitionné chez lui, en pleine campagne présidentielle, qui plus est, au moment de l'histoire avec d'emplois fictifs pour Pénélope. Bon bref, finalement, la France Insoumise n'est pas non plus plus victime que n'importe quel autre parti qui fait le même genre de trucs. Et alors, du coup, après Mélenchon qui braille comme ça, comme personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Non mais sa personne à lui est sacrée. La nôtre par contre pas trop. Hein. La plupart du temps, si on a des flics face à nous, on pourrait toujours essayer de crier que notre personne est sacrée. Mais pareil, il faut voir les images. Hein. Les flics font plutôt tout ce qu'ils peuvent pour éviter de toucher Mélenchon. Si nous on se mettait à brailler comme ça devant eux, il y a peu de chances que vous n'avez pas à me traiter de cette manière. Je n'ai pas volé de cigarette. Autant dire, moi c'est de la criminalité en col blanc, donc c'est pas pareil. Ce matin, un autre gars de la France Insoumise, un autre député comme ça, Manuel Bompard, qui explique à la radio, un policier m'a attrapé par le cou, attrapé par le bras, m'a tiré, oh putain, j'ai été violenté, agressé. Un foie incroyable.
Preuve, s'il y en avait besoin, que quand même, c'est au moins, en tout cas pour les cadres du Parti de la France Insoumise, ils ne vont pas souvent en manif pour voir ce qui s'y passe. Quoi.
Mais c'est clair.
Ni dans les quartiers.
Ou alors ils vont en manif, mais comme ils sont juste derrière leur banderole à eux, c'est juste l'endroit où tout le monde évite de leur faire quoi que ce soit. Alors nous, si les flics débarquent chez nous, si on se permet un centième de l'attitude de Mélenchon hier, c'est tous les habitants de la maison plaqués à terre vite fait, tout le monde embarqué pour rébellion et outrage, c'est vraiment, vraiment pas le même traitement. Mais c'est ça, c'est que nous, on n'a pas l'immunité parlementaire. Nous, si ça se trouve, on serait capable de voler des cigarettes, ce que Mélenchon n'a pas fait, il l'a bien dit. Juste, nous, on n'appartient pas du tout au même monde. Et nous, quand on fait un truc illégal, c'est pas de la criminalité en col blanc comme Mélenchon et ses potes, et forcément, ça douille un peu plus.
sens que tu as encore parlé criminalité.
Oui, je vais encore parler criminalité. Mais alors voilà, ce week-end, le week-end dernier, un gars a eu la mauvaise idée d'aller faire du VTT dans la cambrousse française.
Comme
il était anglais, il avait peut-être pas entièrement mesuré le risque. En tout cas, c'est la saison de la chasse. Le gars est mort. Alors, 6 heures du mat, une battue au gros gibier organisée par des chasseurs locaux en présence d'invités. Ah non, 6 heures de l'après-midi par contre. La chasse qui avait débuté le matin avait repris dans l'après-midi. Tout ça se passe à Montrion, c'est à côté de Morzine. Il y avait 8 chasseurs, 6 qui étaient plutôt des jeunots, 20-23 ans. 2 autres qui avaient plutôt la quarantaine, des beaufs moyens, avec des flingues. Le cycliste avait des vêtements de couleur vive, la zone était découverte, la visibilité était parfaite. Un des jeunes a tiré, la balle a traversé le corps du cycliste de l'omoplate gauche jusqu'à la clavicule droite. Alors le tireur, Pichoun, il est quand même, alors lui visiblement il est beaucoup pris en pitié par la presse, il n'a pas pu être entendu, ça se passait ce week-end, hein. Il n'a toujours pas pu être entendu parce qu'il est en état de choc, il est à l'hôpital. Bon, autant dire que si le tueur avait été rebeu, par exemple, état de choc ou pas état de choc, il aurait été entendu dans la demi-heure qui suivait. Mais là, quand même, non. C'est vrai que c'est pas facile pour lui. Ce week-end, le maire de Montrion a directement pris un arrêté qui suspendait provisoirement la chasse sur son territoire, par respect pour la victime et dans l'attente des résultats de l'enquête. J'imagine que les chasseurs ne vont pas être contents et que ça ne va peut-être pas durer très longtemps. Alors voilà, rappelons que fin septembre, par exemple, un chasseur de 19 ans avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Finalement, ça veut dire qu'il est condamné à 1 an. Finalement, ça veut dire qu'il va faire 6 mois. Parce que nous, on n'est pas pour qu'il reste hyper longtemps en taule, mais c'est juste que là, on parle quand même d'un homicide. Et que, encore une fois, l'histoire de 2 poids 2 mesures est quand même à des moments particulièrement gigantesque dans le déséquilibre. Donc après la mort en 2015 d'un homme sur un chemin forestier dans un bled qui s'appelle Quintal. La femme de ce gars qui a été tué à Quintal a interpellé lundi soir le président Macron sur Facebook. Depuis notre accident, certaines mesures de sécurité complémentaires ont été prises, mais force est de constater que ces mesures sont loin d'être suffisantes. Eh bien oui, elles sont loin d'être suffisantes, puisqu'entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, donc en un an, il y a eu 113 accidents de chasse, dont 13 accidents mortels. Bon, dans la même période, il se trouve que le terrorisme dont on nous rabat les oreilles tout le temps a fait 8 victimes en France. 8 personnes qui ont été tuées par les terroristes, pendant que les chasseurs en butaient 13. Mais alors, contre les réseaux de chasseurs, pour le coup, rien de rien. Alors, lobbyistes sont quand même plutôt reçus à l'Elysée.
Ça marche pas. C'était censé balancer une musique, je voulais
faire. On est censé avoir un petit...
Et puis, aller dans la gueule du loup, seulement. Dans la capitale de l'impérialisme, c'est là que je devais venir, c'est là que les paroles décisives devaient se passer.
Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des presses fumantes au creux. De ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb Yassine, comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, l'Algérie s'évade et revient me voir. Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires.
Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith. de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks, c'est d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés.
Imaginez ce spectacle extraordinaire. Volga à la fois crache leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vous bute les bim-bom.
C'est donc une colère cosmique.
Ils ont une colère cosmique et tourner la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin de cette mairie sous la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérés, c'est des termes de crache. C'est qu'il faut mis la vie, et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir, et il faut continuer les premières. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir dans une sorte d'acceptation et de résignation.
C'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Contre la magie.
Ah, eh bien, on va commencer par la bonne nouvelle. Puisque en l'espace de quelques jours, deux tribunaux ont annulé la décision d'expulsion de demandeurs d'asile en France. De demandeurs d'asile qui sont arrivés en France et qui sont passés par l'Italie et qui donc devaient subir la procédure Dublin, vous savez. Cette fameuse procédure qui dit que le premier pays dans lequel en Europe vous faites tricard, vous devez déposer votre demande d'asile dans ce pays-là. Et donc, si vous suivez l'actualité, vous avez compris que l'Italie était un gros pays d'arrivée pour bon nombre de migrants. Et voilà, donc tout l'enjeu de la France, c'est de dire on vire les gens en Italie. C'est leur problème. Alors, tout d'abord, le jeudi 11 octobre, le tribunal de Melun, en Seine-et-Marne, se retrouve face à un demandeur d'asile qui affirmait avoir été empêché de déposer une demande d'asile en Italie. Alors, face à ça, le tribunal a décidé que ce témoignage était, je cite, « vraisemblable au regard à la politique menée par les autorités italiennes » et le juge motive sa décision en rappelant que ces autorités italiennes ont, je cite, « elles-mêmes affirmé ne pas être en mesure de traiter les demandes d'asile présentées par les personnes accostant sur leur territoire dans des conditions conformes au respect du droit d'asile ». Fin de la citation. Pas mal. Donc cette personne n'est pas expulsée par la France en direction de l'Italie. Quatre jours plus tard, le 15 octobre, c'est le tribunal administratif de Pau qui a estimé que, je cite, « le système italien de traitement de l'asile et les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, voire des réfugiés, peuvent désormais être regardés comme affectés de défaillance systémique. » Ouais, bon, c'est des juges, ils ont quand même des... Hein, on se souvient que c'est pas nous, donc ils ont des formulations un peu compliquées. Bref, je reprends. « Peuvent être désormais regardés comme affectés de défaillance systémique qui portant en particulier sur le droit au logement et à la santé l'expose à un risque de traitement inhumain ou dégradant. » Bref, le tribunal s'appuie sur des rapports de Médecins sans frontières, Amnesty International et du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Bref, pas voilà, un peu des poids lourds, hein, comme on dit. Ces ONG démontrent la difficulté, voire l'impossibilité de déposer une demande d'asile en Italie. Amnesty, par exemple, signale qu'entre en 2017-2018, sur 130 000 demandes d'asile reçues, l'Italie n'a pu en traiter que 40%. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand même ces tribunaux s'appuient, enfin, font leur jugement, du coup, parce qu'on est quand même en Italie sous le gouvernement Salvini, qui est quand même un gouvernement néofasciste. Mais ce gouvernement, enfin, quand on voit le rapport d'Amnesty qui signale du coup ces faits entre 2017 et 2018, date d'avant la prise de fonction de Salvini. Et donc, il y a fort à parier que des situations de gens qui arrivent devant les tribunaux qui disent en fait, juste, c'était pas possible, ou juste ma demande d'asile n'a jamais été traitée. Enfin, ils ont dû en avoir plein. Et c'est l'arrivée au pouvoir de Salvini qui. Au final, quand en lisant l'article, on me dit « Ah d'accord, c'est ce truc-là qui avait créé ces situations », bah en fait, non. C'était des situations qui existaient avant. Juste, ça a changé le regard des juges sur ce que subissent les migrants là-bas. Bon, bah c'est au moins l'espèce de mini-bonne nouvelle qu'on peut trouver là-dedans. Ces deux jugements ont de fortes chances de faire jurisprudence et donc de servir d'exemple pour des jugements à venir sur tout le territoire. On rappelle au passage que pour Macron et son ministère de l'Intérieur, on dit ministère de l'Intérieur parce que moi, c'est un peu... subir des changements en ce moment, le renvoi de demandeurs d'asile vers l'Italie était une priorité, hein. Peu importe que ce renvoi se fasse donc dans un pays avec un président néo-fasciste.
Il faut que ça se sache.
Et on passe sur la mauvaise nouvelle. En l'espace de 15 jours, les gardes-côtes marocains tirent sur des embarcations qui souhaitent se diriger vers les gardes-côtes, vers les côtes espagnoles, pardon. Devenu depuis quelques mois, donc depuis l'élection de Salvini, l'histoire de le bateau de l'Aquarius. Bref, comme de fait c'est un peu plus compliqué l'Italie en ce moment, et ben une des nouvelles routes qui est en train de se créer, c'est le Maroc pour rejoindre les côtes espagnoles. Donc dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière, les gardes-côtes repèrent une embarcation de 58 migrants caché sous une bâche. D'après les gardes-côtes, le bateau a réalisé, je cite, une manœuvre hostile, ce qui les aurait poussés à leur tirer dessus, blessant un gamin de 16 ans à l'épaule. Alors on a quand même un peu du mal à comprendre ce qu'a pu faire un bateau plein à craquer comme manœuvre hostile aux migrants, aux gardes-côtes. Bon, parce que quand même, on voit un espèce de bateau rempli plein à craquer face à des bateaux surpuissants de, je sais pas si c'est l'armée ou la police qui s'occupe de ça au Maroc. Mais voilà, donc en fait, même s'ils ont fait mine de leur foncer dessus assez facilement, en fait, ils auraient pu éviter. Et c'est même, enfin, je veux dire, ils leur disent même pas, ils ont essayé de nous foncer dessus, ils ont dit manœuvre. Ils ont dit quoi ? Manœuvre hostile. Donc si ça se trouve, je sais pas, ils ont dessiné un doigt d'honneur avec les vagues dans la mer, on sait pas trop.
Oh, attends, peut-être qu'ils ont essayé de les aborder. Hein.
Peut-être. Ah, peut-être qu'ils ont essayé de faire une opération de piratage. Bon, en tout cas, bilan de l'opération, tout le monde a été arrêté et le mineur blessé a été conduit à l'hôpital. Le 25 septembre, cette fois-ci, l'issue est encore plus tragique. Une jeune Marocaine meurt sous les balles des gardes-côtes marocains. Même situation. Elle était également à bord d'un bateau qui tentait de rejoindre les gardes-côtes espagnols. Les gardes-côtes marocains ont invoqué la même excuse qui était manœuvre hostile. Voilà, on en est là au Maroc. Pas du tout dédonner les gardes-côtes marocains, mais pour en responsabiliser un peu l'ensemble des acteurs. Sous ces tirs-là et sous ces balles-là, il y a l'Europe qui est responsable directement par la pression qu'elle met au gouvernement marocain pour contenir un maximum les migrants qui tentent de passer, pour tout ça. Bref, on en a parlé plein de fois. On essaiera peut-être d'en reparler plus profondément la semaine prochaine.
Il faut que que ça se sache.
Eh bien, figurez-vous que la France vend des armes. Et ouais, la France est pleine d'entreprises qui vendent des armes. Alors, elle en vend quand même beaucoup, elle en vend plein. Elle en vend, entre autres, à l'Égypte. Et l'Égypte s'en sert pour tuer des manifestants. Amnesty International a sorti hier un rapport qui nous détaille tout ça. Alors, l'État et plusieurs entreprises françaises ont participé à la sanglante répression égyptienne des 5 dernières années. Le rapport s'attache surtout à ces 5 dernières années. En fournissant au régime égyptien, donc le nouveau président égyptien, on sait, Abdel Fattah al-Sissi, n'est pas exactement un tendre, en lui fournissant du matériel militaire et de surveillance. Donc, d'un côté, il y a vraiment des chars, des flingues et tout ça. D'un autre côté, il y a des outils numériques qui participent à la mise en place d'une architecture de surveillance et de contrôle orwellienne, d'après l'Observatoire international des armements. Donc, on se rappelle, Abdel Fattah al-Sissi, coup d'état militaire en juillet 2013. Alors, on se rappelle encore un tout petit peu avant, l'Égypte, les printemps arabes. En 2011, il y a un mouvement révolutionnaire qui arrive au pouvoir. Enfin, disons que la révolution renverse comment il s'appelait déjà, Trucmuche ?
Moubarak.
Moubarak, merci. Que là, c'est un peu flottant pendant un moment. Et puis, on a un premier président qui est élu, qui est Mohamed Morsi, qui lui était un président des Frères musulmans. Pas exactement notre ami, c'est clair. Mais à un moment, il y a une sorte de nouvelle révolution qui met Moubarak dehors. Et là, la personne qui, à ce moment-là, prend le pouvoir sur cette révolution, c'est Abdel Fattah al-Sissi, qui est un général qui est quand même un peu poussé par les Occidentaux, puisque lui, au moins, il ne sera pas islamiste, contrairement à Morsi. Mais alors, lui, il arrive quand même en étant directement extrêmement violent dans sa manière de prendre le pouvoir, et en particulier contre les Frères musulmans. Et donc... depuis qu'il est là, alors bien sûr, il a commencé par une répression contre les Frères musulmans, et puis la répression s'est étendue contre tout et tout le monde, tous les gens qui le remettaient en cause. On a parlé, reparlé ici, mais en tout cas, c'est ça. Ça a commencé par les Frères musulmans, et puis ça a été aussi beaucoup les mouvements de gauche et d'extrême gauche. Et puis récemment, on a aussi eu des trucs ultra trash contre globalement les homosexuels aussi. Mais alors, sur le plan répression de mouvements politiques, donc on parle de dispersion de manifestations avec des moyens militaires. Et par exemple, le 14 août 2013, dispersion d'un sit-in qui a fait 1000 morts. C'est ça, les gens, ils s'assiedent au milieu d'une place, l'armée arrive, 1000 morts. Incarcération d'au moins 60 000 prisonniers politiques depuis 2013. Milliers d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. On parle entre juillet 2013 et juin 2016, donc sur 3 ans, on parle de 2811 cas de disparition forcée, de gens qui ont été embarqués par les services de sécurité, recours systématique à la torture, forte augmentation des condamnations à mort. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la France vend des armes et des armes et des armes à l'Égypte. Et alors, figurez-vous que en août 2013, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne affirmait « Les États membres ont décidé de suspendre les licences d'exportation vers l'Égypte de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne. » Depuis ça, au moins 8 entreprises françaises, encouragées par chacun des gouvernements qui se sont succédés depuis 2013, c'est-à-dire d'abord François Hollande avec son ministre Laurent Fabius, et puis après Macron. Donc tous ces gouvernements ont encouragé ces entreprises à plutôt profiter de cette répression pour engranger des énormes profits. Et surtout, comme l'Europe, mais du coup, là aussi, la France avait des gens dans l'Europe, a dit attention, il faut arrêter de livrer des armes à l'Égypte. Et bien, du coup, les autres pays en ont effectivement moins livré, ce qui fait que alors en gros, les livraisons d'armes françaises vers l'Égypte passent de 39 millions d'euros en 2010 à 1,3 milliard d'euros en 2016. La France a bien manœuvré sur ce coup-ci, bien manœuvré pour l'emploi qui est de fabriquer des armes pour aller buter des manifestants.
C'est à peu près mais on parle aussi de l'emploi du nucléaire. Enfin, cet emploi, c'est un peu servi que ça sert un peu comme excuse à toutes sortes de crapuleries.
Un paquet de saloperies, ouais. Alors que le Conseil européen annonçait la cessation des exportations de matériel militaire et de surveillance pour condamner la dérive dictatoriale en Égypte, la France gagnait des parts de marché et réalisait des exportations records. Certaines entreprises ont vendu des armes conventionnelles à une armée qui était responsable de l'arme. Alors, bon, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces armes ont été vendues sous le prétexte. En tout cas, l'Égypte a acheté ces armes pour combattre le terrorisme dans le Sinaï. Et pas du tout pour buter du manifestant. De toute façon, les textes internationaux...
Interdisent ça.
Ah. Et du coup oblige un pays vendeur d'armes à vérifier comment ces armes sont utilisées. Et donc là, l'Égypte allait utiliser ça pour combattre le terrorisme dans le Sinaï.
À vérifier ça, ça peut vouloir dire, par exemple, faire signer une décharge au pays. Genre, n'utiliserai pas ces armes à mauvaise escient.
C'est à peu près ça.
En bon père de famille.
C'est à peu près ça. Et du coup, là, on parle de plein d'entreprises françaises qui ont livré des navires de guerre. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle DCNS, des frégates FREM, des corvettes pour une entreprise qui s'appelle GoWind, des avions de combat Rafale et des véhicules blindés, une entreprise qui s'appelle Arcus, des missiles RR et des missiles de croisière pour l'entreprise MBDA, d'autres missiles pour la SAGEM, bon bref. D'autres entreprises françaises ont vendu aussi des véhicules blindés, alors en particulier des Renault Trucks Défense, vendus entre 2012 et 2014, et puis des machines pour fabriquer les cartouches, etc. etc. Entre autres, des sortes de véhicules blindés qui sont des véhicules qui ne sont pas soumis au règlement sur les trucs d'armes, puisque c'est des véhicules blindés, mais qui eux-mêmes ne tirent pas, mais par contre qui sont prévus pour que des militaires puissent se mettre autour, dessus, je ne sais pas exactement comment, et être protégés pour tirer à travers, mais disons que le véhicule lui-même ne porte pas d'armes, donc c'est pas soumis aux réglementations. Mais alors bon, cela bien sûr, il est question de rien quoi. Et puis des sociétés françaises ont aussi vendu aux services de sécurité des technologies de surveillance individuelle, des technologies d'interception de masse sur Internet, hein, des technologies de collecte de données individuelles, de contrôle des foules. Alors c'est plus des drones, des satellites, des blindés légers adaptés au milieu urbain. Alors tout ça, bien sûr, pour aller soi-disant faire la guerre dans le Sinaï en dépit de toute vraisemblance. Et donc évidemment, la révolution égyptienne qui a été faite en 2011, qui avait été portée par une génération Facebook ultra connectée et qui avait su mobiliser les foules, et ben, si ça se passait aujourd'hui, la France participe complètement à l'écrasement de la génération qui a mis en place cette révolution via la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle orwellien visant à écraser dans l'œuf toute expression de contestation. C'est ce que nous dit le directeur du CIHRS, donc le centre de, je sais pas quoi, des droits humains et... ouais, bref, de la recherche sur les droits humains. Alors, la ministre des Armées... les traités internes... Non, ça, j'ai déjà dit. La ministre des Armées, Florence Parly, assure régulièrement que la France pratique une politique d'exportation responsable des armes dans le respect des engagements internationaux et en vertu d'un dispositif de contrôle très rigoureux, très, très, très rigoureux, qui se résume donc à demander au régime de justifier à l'avance les achats d'armes et l'utilisation des armes, et puis qui s'arrête complètement là. En fait, on a aussi un autre exemple qui a fait du bruit un petit peu cet été et puis aussi un petit peu la semaine dernière. C'est les armes que la France vend à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, en particulier qui sont en train de faire une guerre au Yémen. Guerre qui fait des tonnes et des tonnes de morts, mais qui fait aussi qu'il y a des gens qui meurent de faim parce qu'il y a des gros, gros blocus. Tout ça est fait avec des armes françaises. Et pareil, en fait, c'est gigantesque, les armes françaises qui sont vendues là-bas. C'est aussi des bénéfices qui explosent. Et c'est aussi un truc où le gouvernement français dit « Non, non, mais nous, on les vend que pour des trucs extrêmement respectueux des droits humains. »
Ne vous inquiétez pas.
Alors, il faut savoir qu'en France, les exportations d'armes sont soumises à un contrôle qui est uniquement du domaine de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. avec aucun contrôle parlementaire et un blackout total. Il y a moyen d'avoir aucune information là-dessus. Amnesty International, pour rédiger son rapport qui a été publié hier, a dû se servir de films, de photos, de beaucoup de films faits par des manifestants. Ils ont visionné, je ne sais plus, des dizaines d'heures de films. Ils ont regardé des centaines, voire des milliers de photos pour identifier les armes. Mais c'est en voyant ça qu'ils ont dit qu'il y a au moins 200 Renault Trucks Défense qui ont été vendus, par exemple. Mais à côté de ça, il n'y a aucune donnée disponible. Du coup, Amnesty International réclame un contrôle parlementaire sur les exportations d'armes. Alors nous, qu'est-ce qu'on pense de ce contrôle parlementaire? Disons que tout ça est fait dans l'idée que les parlementaires sont un peu moins pourris que les ministres et auraient un peu plus de comptes à rendre. Et puis qu'une fois que tout ça serait public, l'opinion publique pourrait en penser quelque chose. Alors en réalité, nous, on n'est pas complètement confiants dans le fait que l'opinion publique s'en soucie. Et on sait sûr qu'on n'est pas du tout confiants dans les parlementaires, qui sont aussi des gens qui ont aussi à veiller à l'emploi dans leur région. Et puis que l'emploi, si finalement c'est Renault et puis qu'ils font des Renault Trucks Défense, bah ma foi. Alors voilà.
On a espéré un peu le seul truc, c'est que du coup dans ces espèces de commissions parlementaires, il y en ait un peu plus scrupuleux, un peu moins couillon ou pourri que les autres, et qu'ils se disent, ah tiens, si je filais un peu de la doc à Amnesty International ou une autre ONG qui s'occupe de ça pour qu'ils en fassent un truc d'information un peu plus global, quoi.
C'est à peu près ça, mais de toute façon, tant qu'on se dit qu'on va faire de la thune en vendant des engins qui servent à tuer des gens, il y a quand même difficilement moyen pour que ça finisse par donner quelque chose de joli.
Eh bien, il est 19h bientôt 40 et ce Canu Info touche à sa fin. Eh bien, on va faire un petit agenda. On va commencer par un peu de l'autopromotion, puisque l'émission de La Petite Cuillère, qui est une émission radiophonique de Radio Canu, qui est présente sur les ondes de 20h à 21h, les premiers et troisièmes jeudis du mois, qui est une émission, je ne l'ai pas dit, mais anticarcérale, elle rappelle qu'elle diffuse des messages aux prisonniers et prisonnières de la région lyonnaise. Vous pouvez appeler tous les jours leur répondeur au 07 81 35 93 71, 07 81 35 93 71. Pour y laisser vos messages qui seront diffusés à la fin de chaque émission. On précise que l'émission La Petite Cuillère est donc Radio Canu, est audible dans les prisons de Corbat, de Saint-Quentin-Fallavier, de Mézieux et du centre de rétention administrative de Saint-Exupéry.
Rappelle-nous quand on peut écouter l'émission, quand les prisonniers peuvent écouter l'émission et les messages que vous pouvez leur envoyer.
Alors, c'est de 20h à 21h et les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Alors, le mieux pour ne pas rater les messages, c'est d'écouter tout le temps Radio Canu. Mais sinon, c'est les 20h à 21h, les premiers et troisièmes jeudis du mois. Vous pouvez aussi écrire vos messages à Atelier d'écriture La Petite Cuillère, 24 rue Sergent Blandan, dans le 1er arrondissement de Lyon. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur rebellion.info. En ce moment, c'est sur l'agenda à droite du site. Sinon, vous tapez La Petite Cuillère Radio Canu dans Google et vous aurez un résultat sur la première page. Ne vous inquiétez pas. Sinon, quoi d'autre ? Il y a une mobilisation nationale pour un droit inconditionnel à la langue. Ça s'appelle le français pour tous. Ne vous inquiétez pas, malgré ce que vous pouvez penser, c'est pas un truc nationaliste. Pas du tout, du tout, du tout. C'est une mobilisation nationale de toutes les associations, de plein d'associations qui s'occupent de filer des cours de français aux gens qui ne parlent pas le français en France. Et c'est quand même un des gros vecteur de précarisation, de galérer, et notamment des migrants. Enfin bref, ça regroupe quand même tout un tas de gens divers et variés. Voilà, donc il y a une mobilisation nationale à Lyon, ça se passera le jeudi 18 octobre de 16h à 18h, place Louis Pradel, où j'imagine il y aura un peu une présentation de plein de trucs qui s'y font. Voilà, pour plus de précision, regardez Rebellion, point info, pareil, c'est dans l'agenda. Et à Villeurbanne, c'est les centres sociaux de Villeurbanne qui prennent le relais sur ce truc-là. Et c'est le 18 octobre de 16h à 18h, place Lazare-Goujon. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes dans ces problématiques-là, et ben, les centres sociaux de Villeurbanne sont là pour expliquer un peu leur démarche sur cette problématique. Voilà, on n'en parle pas souvent, mais quand même, ça a une sacrée importance pour nous qui parlons français, là, maintenant, couramment.
Eh ben, on va peut-être se quitter maintenant.
Voilà.
Il est 19h43, ça veut dire qu'on vous laisse 17 minutes de musique des très fameuses bandes continues de Radio Canu, avant que vous ayez la joie d'écouter Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
En attendant, à la semaine prochaine, et merci de nous avoir écoutés.
Like a fog that's on a street light.